Lyon demain, programme durable.
C'est un savoir-faire en pleine renaissance. Les torréfacteurs sont de retour en ville. Ainsi, l'UTSA souhaite éveiller les sens du consommateur à partir de deux implantations à Lyon, rue Jules Guedes et rue de la Platière. Objectif, se démarquer de l'offre de la grande distribution et proposer un café de terroir. Et pour cela, renouer donc avec la torréfaction au cœur de nos villes. Lola Angelman a rencontré Guillaume Langlois à l'origine du concept.
Alors nous, on est torréfacteurs de quartier, de café de spécialité. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y avait plein de petits torréfacteurs en ville qui ont disparu pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. Et nous, le but, c'est de ramener ce métier dans les quartiers. C'est pour ça qu'on ne fait pas des grandes boutiques. Nous, c'est des petites boutiques de quartier. Et on ramène la bonne odeur de torréfaction. Et le but, c'est d'accompagner les gens sur l'après Nespresso, leur montrer qu'il y a du fraîchement torréfié localement avec des produits de qualité. Il faut vraiment se concentrer sur la matière première. Nous, on fait que du café de spécialité. Et le café de spécialité, c'est les meilleurs cafés du monde. Et du coup, on met en valeur ces cafés.
Alors, est-ce que tout simplement, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la torréfaction ?
Donc, la torréfaction, c'est ni plus ni moins la cuisson. Donc nous, on a les grains qui arrivent directement des pays producteurs dans des sacs de jus de 60 ou 70 kilos de café vert. On prend le café vert, on le met dans un four. Le torréfacteur, c'est ni plus ni moins un four qui ressemble plus à une machine à laver qu'un four, donc un four rotatif au gaz. Et on commence, il y a trois phases dans la torréfaction. La première, c'est la phase de séchage. Le grain, il va passer du vert au jaune, donc tout l'eau qui est contenue dans le grain va s'évaporer. La deuxième phase qui va être vraiment la cuisson du grain, où il y a la réaction de Maillard qui va s'opérer, donc l'interaction des arômes, pour développer la complexité aromatique. Et puis, on a une petite phase de développement pour stabiliser les arômes, qui va nous donner vraiment un café très subtil, très fruité, sans aucune amertume, avec un petit peu d'acidité, mais dans le café de spécialité, il n'y a pas d'amertume. L'amertume, en fait, c'est un défaut du café.
Je voulais aussi savoir en quoi c'est difficile, du coup, d'obtenir un café d'excellence.
Alors, c'est comme dans tout, tu vois, que ce soit... D'abord, tu as la matière première, tu as le travail du fermier qui est vraiment la clé. Nous, on fait que du bio parce que pour avoir un café d'excellence, il faut avoir l'amour du produit. Et quand tu as l'amour du produit, tu ne peux pas te mettre du pesticide de partout. Donc d'abord, il faut un café qui soit cultivé dans le respect des traditions, dans le respect du produit, qui soit cueilli. Donc, tu as toute la partie culture. Le truc, c'est qu'on ramasse cerise par cerise. Donc, c'est comme si tu faisais les vendanges et que sur une grappe, y a des grains verts, des grains mûrs, des grains à moitié mûrs et qu'on te dit « Ok, tu fais les vendanges, mais tu prends que les grains mûrs. » Le café, c'est comme ça. Et tu vas faire l'équivalent des vendanges, donc les récoltes, tous les 10 jours, pendant 3-4 mois, parce que tous les 10 jours, il y a des grains qui vont arriver à maturité. Donc, c'est beaucoup plus complexe que les vendanges. Donc, voilà, donc tu as la récolte. Ensuite, tu as la fermentation, la phase de fermentation qui est très importante parce que là, tu vas aussi commencer à développer des arômes. Et la dernière, c'est la phase de séchage qui va aussi là où tu peux... Si tu sèches pas bien ou pas assez, tu vas développer de la moisissure. Si tu sèches trop, tu vas perdre les arômes. Et ensuite, le café nous arrive ici. Et donc, il y a la torréfaction qui est hyper importante. Donc là, il y a un vrai savoir-faire.
Et c'est qui l'a fait, la torréfaction ?
Alors nous, on a un maître torréfacteur qui s'appelle Simon, qui a une énorme expertise dans le monde du café de spécialité, et donc qui forme les équipes à la torréfaction. Et la toute dernière étape, mais qui est hyper importante, et je vais encore faire un parallèle avec le vin, parce qu'il y a plein de parallèles entre le vin et le café de spécialité, c'est que tu vois, quand tu vas dans un resto, un beau resto, et qu'il y a un sommelier qui vient t'ouvrir une bouteille, le sommelier, ok, il a fait la sélection, mais il ouvre la bouteille, il te sert le vin. S'il a pas de bol, il est bouchonné, quoi. Dans le monde du café, le barista, il fait bien plus qu'ouvrir une bouteille, parce qu'il va sélectionner son café, il va faire tous les réglages, et ensuite, il va le mettre en valeur.
Si j'arrive, du coup, en tant que client et cliente ici, qu'est-ce que vous voudriez me transmettre à travers votre café ?
Tous les clients qui rentrent ici, on leur pose la même question, on dit comment vous buvez votre café et qu'est-ce que vous aimez dans le café. Et à partir de là, on va comprendre ce que tu recherches et on va essayer de t'accompagner sur la découverte. Nous, on adore faire découvrir des nouvelles choses aux gens. Le but, c'est de comprendre les attentes de chacun et puis de faire découvrir des choses qui correspondent aux attentes.
Et moi, je voulais savoir aussi, en développant, parce que c'est quand même assez original de développer du coup un torréfacteur en ville, et c'était quoi votre but principal ?
Ah, le but principal, c'est justement le partage.
Ouais,
c'est vraiment le partage, parce que quand tu fais découvrir un café de spécialité à quelqu'un, ouais, que les gens comprennent et adhèrent et apprécient, c'est génial. T'as l'impression, le café, c'est dingue. Tout le monde connaît le café, tu vois. Tout le monde a goûté ou a bu du café. Mais très peu de gens encore connaissent le café de spécialité, voilà. Et le bon café. Et donc, tu passes dans un autre univers, en fait. Et ce partage, cette découverte, c'est génial de partager ça avec des gens. C'est super.
Et du coup, il y a moins ou plus de caféine?
Suivant les variétés, suivant les méthodes de voilà, les altitudes, etc., il va y avoir plus ou moins de caféine. Mais en règle générale, il y a le Robusta dans lequel il y a beaucoup de caféine. Il y a en moyenne 10 fois plus de caféine que dans un Arabica. Et ensuite, l'Arabica, plus il est récolté en altitude, moins il y a de caféine. Et nous, d'accord, tous nos cafés sont des cafés d'altitude qui poussent à plus de 1200 mètres d'altitude et on va jusqu'à 2000, 2200 mètres d'altitude.
Ils sont beaucoup moins concentrés en café
qu'un basique. L'avantage, c'est qu'on peut en boire plus, tu vois.
J'ai vu sur votre site internet que vous organisez des ateliers de caféologie.
Tout à fait.
Déjà, j'aimerais savoir, ça consiste en quoi, en atelier
de
caféologie?
C'est vraiment, je sais pas si tu connais, il y a quelques années, il y avait pas mal, c'est pas mal la mode des ateliers autour du vin, la découverte des arômes du vin. On est vraiment aligné avec l'approche. Tout le monde connaît le café, mais personne le comprend. Donc, ce qu'on voulait montrer aux gens, c'est que le café, plus tu le comprends, plus tu sais l'apprécier. Et donc, c'est des ateliers qui durent entre 1h30 et 2h30 selon les ateliers. Et on va vraiment expliquer l'origine du café. Puis derrière, on passe à des choses très pratiques. On va expliquer la récolte, la méthode de maturation, etc. Donc, la base pour comprendre d'où vient le café. Et puis ensuite, on va faire une torréfaction ensemble pour vraiment découvrir et comprendre ce que c'est que la torréfaction. Et puis derrière, c'est suivi par des dégustations et pour comprendre l'impact des différents terroirs. On va comparer un café de la région de Sidama en Éthiopie avec quelque chose du Pérou pour comprendre un petit peu l'impact du terroir, l'impact des variétés sur les arômes.
Et c'est quoi vos critères de sélection?
Déjà, il faut que ce soit du café de spécialité. La définition du café de spécialité, c'est un café qui n'a pas de défaut, pas de moisissure, pas de piqûre d'insectes, et qui a un profil aromatique au-dessus de la normale. D'accord? Donc déjà, règle numéro 1, on ne fait que du café de spécialité. Et numéro 2, que du bio. Donc ça limite quand même déjà pas mal les appros. Et ensuite, il faut que l'approche du fermier soit en lien avec nos valeurs. On travaille depuis quelques mois avec un café qui marche vraiment bien, le Vallenato de Colombie. Le Vallenato, c'est le nom de la ferme, la plantation. Le gars, c'est lui qui a planté des caféiers en pleine forêt. Donc il n'y a pas de déforestation. Il fait que du bio, tout est fait à la main, dans les règles de l'art. Son process de fermentation, il est toujours à la recherche du goût, tu vois. Il se concentre. Nous, bosser avec des gens comme ça, on aime des gens qui veulent mettre en valeur les qualités gustatives du café.
Je pense à Malongo qui est par exemple sur un processus de commerce équitable. Est-ce que du coup vous êtes vous aussi sur un commerce engagé, équitable pour les producteurs?
Bien sûr, ouais. Ouais. Alors, nous on est vraiment on est conscient que quand tu veux faire de la qualité, il y a un prix à payer. Et ça, y a des gens qui ne veulent pas le comprendre, mais la réalité, c'est que ne pas vouloir payer le prix, c'est ne pas donner les moyens aux gens de faire de la qualité. Donc nous, quand on bosse avec des fermes, on négocie pas les prix. Et à titre de comparaison, quand tu prends le label Malongo, donc c'est le label Fairtrade qui est défini, donc tous les 3 mois, il y a un nouvel indice qui définit un prix minimum pour les fermiers, d'accord? En ce moment, j'ai pas vérifié depuis plusieurs mois, mais on doit être à 0,82 $ par livre de café. Nous, on est au minimum, on est à 5 ou 6 fois ça. On paye jamais moins de 5 ou 6 fois ça. Donc, si tu veux, c'est même incomparable avec un autocollant sur un truc comme Max Lavar. Et c'est très bien que Max Lavar le fasse, hein. C'est une logique très commerciale, mais qui impacte et qui aide certains fermiers qui font pas forcément de la qualité, mais qui, mais qui aussi ont besoin d'un salaire minimum. Nous, on se concentre sur la qualité et on essaye de rémunérer la qualité.
Et du coup, si l'Utsa Torréfacteur devrait avoir un seul mot d'ordre, ce serait quoi?
Partage. Ouais, c'est vraiment ça, et c'est ce qu'on essaye de faire ressentir quand tu rentres dans une boutique.
Ce côté convivial un peu.
Bah voilà, et puis le côté, t'as envie de parler café, t'as envie d'apprendre, on est là, tu vois, le conseil tout autour du café, tu reviens en disant, moi j'ai fait tel café, j'ai pas aimé, on va te demander comment tu l'as fait, qu'est-ce que tu recherches, etc. Et on va vraiment partager avec toi l'approche et la passion. On n'a que des passionnés du café chez nous, qui ont qu'un désir, c'est de faire découvrir. découvrir aux gens le café de spécialité. Et c'est un produit tellement incroyable. Il y a tellement de choses à découvrir encore. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc il y a des possibilités sans fin.
Guillaume Langlois, à l'origine du concept Loutsa. Loutsa, du nom de la plage grecque près d'Athènes. Une marque qui est née en 2018 à Lyon. Mais le concept fait son chemin et est déjà arrivé à Paris grâce à une levée de fonds de 1,2 million d'euros.